On peut dire malheureusement que l'athéisme, c'est-à-dire le refus de croire en Dieu, est une question d'actualité. Cette philosophie progresse à grands pas, faisant de nombreux adeptes souvent militants. La littérature contemporaine a largement contribué dès l'après-guerre à semer le scepticisme et le doute, particulièrement dans la jeunesse où elle trouve un terrain avide et productif. Le culte de l'homme et de sa science a détrôné aujourd'hui le culte de Dieu. L'homme a aujourd'hui plus de foi dans les possibilités de sa science que dans la puissance d'un Dieu qui prend de plus en plus l'aspect d'un personnage de folklore. Un hebdomadaire français diagnostiquait récemment que la foi du charbonnier est passée dans les laboratoires, les salles d'opération et les usines atomiques. Pourquoi ne croit-on plus en Dieu? Pourquoi s'est-on détourné de la foi si rapidement? L'idée de Dieu est-elle incompatible avec nos temps modernes? La foi chrétienne n'est-elle donc qu'un mythe? N'est-elle que la survivance d'un passé superstitieux? Est-elle une forme de lâcheté de l'esprit humain qui cherche dans l'inconnu une consolation des maux de la terre? N'est-elle plus cette croyance raisonnée et raisonnable basée sur des faits et des témoignages authentiques? À cet abandon de la foi, il y a plusieurs raisons que nous examinerons brièvement. Tout d'abord, l'ignorance. Cela peut paraître paradoxal en notre siècle de conquête spatiale, mais il est un fait qu'il faut dénoncer. Une grande majorité du monde chrétien ne connaît pas le christianisme tel qu'il vit dans les pages de la Bible. Il n'en connaît malheureusement que les expressions plus ou moins belles qui entourent de près son existence. Si l'image est authentique, l'impression sera bonne et durable. Si elle est sale, compromise et hypocrite, il provoque la méfiance et incite à la révolte de l'esprit. Car on ne se sépare pas de Dieu aussi facilement lorsqu'on a appris dès son enfance à le connaître tel qu'il se révèle dans sa parole et dans son Christ. Le connaître ainsi, c'est l'aimer. En effet, la Bible révèle un Dieu qui n'habite pas dans des édifices construits par les hommes. Le temple de Dieu, c'est notre corps. C'est en nous qu'il veut faire sa demeure. Paul écrivait aux chrétiens de la ville de Corinthe, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Plus tard, aux philosophes d'Athènes qui s'imaginaient que la divinité avait besoin d'un logement comme les humains, Paul dira, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Jésus n'avait-il pas déjà affirmé que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux? Le Dieu de la Bible ne s'intéresse pas aux rites extérieurs, aux processions et aux apparats. Cela est un culte des yeux et des sens. Il veut un culte spirituel et vrai, fait de simplicité et de ferveur. Jésus a dénoncé l'hypocrisie d'un culte purement extérieur lorsqu'il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est malheureusement ce genre de définition que nous donnons du christianisme, car ces expressions sont celles d'une religion froide, rituelle, extérieure, encombrée d'une liturgie compliquée et décourageante, prenant souvent des apparences anachroniques et idolâtres. Faut-il s'étonner si nos jeunes se révoltent et se détournent de ce qu'ils appellent eux-mêmes une mascarade? Si les préceptes du Christ avaient été fidèlement enseignés, si la Bible avait été confiée à chaque foyer comme fondement de chaque foyer, on aurait appris et on se serait souvenu que Jésus a dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ». On invoque parfois le fait qu'il fallait bien adapter la religion aux besoins de l'époque. Un tel raisonnement, si courant de nos jours, a ceci d'insidieux, c'est qu'au lieu d'enseigner aux hommes de se plier et de se soumettre aux exigences de la volonté de Dieu, on préfère remodeler l'Évangile selon les formes et les goûts de l'homme moderne. Si les préceptes du Christ avaient été fidèlement enseignés, si la Bible avait été confiée à chaque foyer comme fondement de chaque foyer, on aurait appris et on se serait souvenu que Dieu ne tolère pas qu'on modifie sa loi en aucune façon. L'apôtre Jean déclare fermement que celui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a aucune part avec Dieu. Aujourd'hui, rares sont ceux qui connaissent la Bible pour l'avoir lue ne serait-ce qu'une fois. Sur le mur d'une grande librairie française, on peut lire cette phrase « Les livres sont la lumière qui guide la civilisation ». Or, n'a-t-on pas raison de s'inquiéter de la destinée d'un peuple ou d'un individu et de douter de ses lumières s'il ne connaît pas le livre des livres où se révèle celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Deuxième raison qui pousse les hommes à abandonner Dieu, le fait que pendant des siècles, le christianisme s'est souillé de sang au nom de Dieu, dans des guerres, des conflits de toutes sortes plus sordides les uns que les autres, des persécutions et des dominations forcées des minorités d'opinion contraire. « On ne mesurera jamais assez », écrit Charles Müller, « le scandale qu'est l'Inquisition aux yeux des millions d'incroyants sincères, celles du passé et aussi ses variantes modernes. » Longtemps, ceux qui se sont dit chrétiens n'ont été qu'une lamentable caricature de l'original. Qui se sent attiré par un christianisme aussi compromis, aussi entaché que celui-là? Dans le second chapitre de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul se lève avec véhémence contre le juif orgueilleux qui se vante d'être le conducteur des aveugles et le maître des ignorants, tout en étant lui-même faux et enténébré. Dans cet extrait, il est intéressant de remplacer le mot « juif » par le mot « chrétien ». L'effet est impressionnant. Il ne nuit aucunement au sens du texte, comme vous pouvez le constater. « Toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Et il ajoute cette phrase terrible pour conclure ce réquisitoire incisif. « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » Autrement dit, l'exemple de votre vie est si repoussant dans son hypocrisie que les païens préfèrent vivre sans votre Dieu, si c'est tout l'effet qu'il a sur vous. Parmi les raisons qui poussent les hommes à rejeter Dieu, on peut encore parler du matérialisme, cette idole moderne, c'est-à-dire l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux, la soif de posséder qui engendre la convoitise, la jalousie et le meurtre. On peut comprendre que celui qui est âpre au gain, même au prix de l'honnêteté, trouve Dieu plutôt gênant. Il s'en débarrassera d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas saint Augustin qui affirmait finement que nul ne nie Dieu s'il n'a intérêt à ce qu'il n'existe pas? Mais nous savons qu'il est vivant. Les cieux racontent sa gloire. Il a marqué du sceau de sa présence et de sa puissance l'étendue et la complexité de l'univers. L'apôtre Paul déclare que ceux qui rejettent Dieu et sa vérité ferment les yeux pour ne pas le voir et s'efforcent ainsi de se persuader qu'il n'existe pas. Ils sont donc inexcusables, dit-il, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous. Pour terminer cette étude avec vous, nous laisserons la parole à Job, cet intègre et fidèle serviteur du Dieu vivant. « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? » Tous ces hommes de Dieu de jadis et d'aujourd'hui témoignent de la présence de Dieu dans leur vie. avec une conviction désarmante et inexplicable pour les athées. C'est pour nous tous, qui faisons partie de la maison de Dieu, un fait indéniable, une certitude complète, une ferme assurance, que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. C'est ce qui fait la force et la joie d'un chrétien.